Honoré de Balzac. Illusion perdue. 5. Naïs fut aimée comme tout jeune homme aime la première femme qui le flatte. Car Naïs pronostiquait un grand avenir, une gloire immense à Lucien. Madame de Bargeton usa de toute son adresse pour établir chez elle son poète. Non seulement elle l'exaltait outre mesure, mais elle le représentait comme un enfant sans fortune qu'elle voulait placer. Elle le rapetissait pour le garder. Elle en faisait son lecteur, son secrétaire. Mais elle l'aimait plus qu'elle ne croyait pouvoir aimer après l'affreux malheur qui lui était advenu. Elle se traitait fort mal intérieurement. Elle se disait que ce serait une folie d'aimer un jeune homme de 20 ans qui, par sa position, était déjà si loin d'elle. Ses familiarités était capricieusement démentie par les fiertés que lui inspiraient ses scrupules. Elle se montrait, tour à tour, altière et protectrice, tendre et flatteuse. D'abord intimidée par le haut rang de cette femme, Lucien eut donc toutes les terreurs, les espoirs et les désespérances qui martèlent le premier amour et le mettent si avant dans le cœur par les coups que frappent alternativement la douleur et le plaisir. Pendant 2 mois, il vit en elle une bienfaitrice qui allait s'occuper de lui maternellement. Mais les confidences commencèrent. Madame de Bargeton appela son poète « cher Lucien », puis « cher » tout court. Le poète, enhardi, nomma cette grande dame Naïs. En l'entendant lui donner ce nom, elle eut une de ces colères qui séduisent tant un enfant. Elle lui reprocha de prendre le nom dont se servait tout le monde. La fière et noble Nègrepelisse offrit à ce bel ange un de ses noms. Elle voulut être Louise pour lui. Lucien atteignit au 3e ciel de l'amour. Un soir, Lucien étant entré pendant que Louise contemplait un portrait qu'elle serra promptement, il voulut le voir. Pour calmer le désespoir d'un premier accès de jalousie, Louise montra le portrait du jeune Cantecroix et raconta, non sans larmes, la douloureuse histoire de ses amours, si pure et si cruellement étouffée. S'essayait-elle à quelque infidélité envers son mort, ou avait-elle inventé de faire à Lucien un rival de ce portrait? Lucien était trop jeune pour analyser sa maîtresse. Il se désespéra naïvement, car elle ouvrit la campagne pendant laquelle les femmes font battre en brèche les scrupules, plus ou moins ingénieusement fortifiés. Leurs discussions sur les devoirs, sur les convenances, sur la religion, sont comme des places fortes qu'elles aiment avoir prendre d'assaut. L'innocent Lucien n'avait pas besoin de ces coquetteries. Il eût guerroyé tout naturellement. « Je ne mourrai pas, moi. Je vivrai pour vous », dit audacieusement un soir Lucien, qui voulut en finir avec Monsieur de Cantecroix et qui jeta sur Louise un regard où se peignait une passion arrivée à terme. Effrayée des progrès que ce nouvel amour faisait chez elle et chez son poète, elle lui demanda les vers promis pour la première page de son album, en cherchant un sujet de querelle dans le retard qu'il mettait à les faire. Que devint-elle en lisant les 2 stances suivantes, qu'elle trouva naturellement plus belles que les meilleures de M. de Lamartine? Le magique pinceau, les muses mensongères, n'orneront pas toujours de mes feuilles légères le fidèle vélin, et le crayon furtif de ma belle maîtresse me confiera souvent sa secrète allégresse, ou son muet chagrin. Ah, quand ses doigts plus lourds à mes pages fanées demanderont raison des riches destinées que lui tient l'avenir, alors veuille l'amour que de ce beau voyage le fécond souvenir soit doux à contempler comme un ciel sans nuage. « Est-ce bien moi qui vous les ai dictés ? » dit-elle. Ce soupçon, inspiré par la coquetterie d'une femme qui se plaisait à jouer avec le feu, fit venir une larme aux yeux de Lucien. Elle le calma en le baisant au front pour la première fois. Lucien fut décidément un grand homme qu'elle voulut former. Elle imagina de lui apprendre l'italien et l'allemand, de perfectionner ses manières. Elle trouva là des prétextes pour l'avoir toujours chez elle, à la barbe des ennuyeux courtisans. Quel intérêt dans sa vie ! Elle se remit à la musique pour son poète, à qui elle révéla le monde musical. Elle lui joua quelques beaux morceaux de Beethoven et le ravit. Heureuse de sa joie, elle lui disait hypocritement en le voyant à demi pâmé : Ne peut-on pas se contenter de ce bonheur ? Le pauvre poète avait la bêtise de répondre : Oui. Enfin, les choses arrivèrent à un tel point que Louise avait fait dîner Lucien avec elle dans la semaine précédente, entière, avec M. de Bargeton. Malgré cette précaution, toute la ville sut le fait et le tint pour si exorbitant que chacun se demanda s'il était vrai. Ce fut une rumeur affreuse. À plusieurs, la société parut à la veille d'un bouleversement. D'autres s'écrièrent « Voilà le fruit des doctrines libérales !» Le jaloux du Châtelet apprit alors que Madame Charlotte, qui gardait les femmes en couche, était Madame Chardon, « mère du Châteaubriand de Loumeau, » disait-il. Cette expression passa pour un bon mot. Madame de Chandour accourut la première chez Madame de Bargeton. « Savez-vous, chère Naïs, ce dont tout Angoulême parle ?» lui dit-elle. « Ce petit poète Rio a pour mère Madame Charlotte, qui gardait il y a 2 mois ma belle-sœur en couche. »« Ma chère, » dit Madame de Bargeton, en prenant un air tout à fait royal, « qu'y a-t-il d'extraordinaire à ceci ? N'est-elle pas la veuve d'un apothicaire ? Une pauvre destinée pour une demoiselle de Rubempré. Supposons-nous sans un sou vaillant, que ferions-nous pour vivre ? Nous ? Comment nourririez-vous vos enfants ? » Le sang-froid de Madame de Bargeton tua les lamentations de la noblesse. Les âmes grandes sont toujours disposées à faire une vertu d'un malheur. Puis, dans la persistance à faire un bien qu'on incrimine, il se trouve d'invincibles attraits. L'innocence a le piquant du vice. Dans la soirée, le salon de Madame de Bargeton fut plein de ses amis, venus pour lui faire des remontrances. Elle déploya toute la causticité de son esprit. Elle dit que, si les gentilshommes ne pouvaient être ni Molière, ni Racine, ni Rousseau, ni Voltaire, ni Massillon, ni Beaumarchais, ni Diderot, il fallait bien accepter les tapissiers, les horlogers, les couteliers, dont les enfants devenaient des grands hommes. Elle dit que le génie était toujours gentilhomme. Elle gourmanda les hobereaux sur le peu d'entente de leurs vrais intérêts. Enfin, elle dit beaucoup de bêtises qui auraient éclairé des gens moins niais, mais ils en firent honneur à son originalité. Elle conjura donc l'orage à coups de canon. Quand Lucien, mandé par elle, entra pour la première fois dans le vieux salon fané où l'on jouait au whist à 4 tables, elle lui fit un gracieux accueil et le présenta en reine qui voulait être obéie. Elle appela le directeur des contributions, M. Châtelet, et le pétrifia en lui faisant comprendre qu'elle connaissait l'illégale superfétation de sa particule. Lucien fut dès ce soir violemment introduit dans la société de Madame de Bargeton. Mais il y fut accepté comme une substance vénéneuse que chacun se promit d'expulser en la soumettant au réactif de l'impertinence. Malgré ce triomphe, Naïs perdit de son empire. Il y eut des dissidents qui tentèrent d'émigrer. Par le conseil de M. Châtelet, Amélie, qui était Madame de Chandour, résolut d'élever hôtel contre hôtel en recevant chez elle les mercredis. Madame de Bargeton ouvrait son salon tous les soirs, et les gens qui venaient chez elle étaient si routiniers, si bien habités à se retrouver devant les mêmes tapis, à jouer au même tric-trac, à voir les gens, les flambeaux, à mettre leurs manteaux, leurs doubles souliers, leurs chapeaux dans le même couloir, qu'ils aimaient les marches de l'escalier autant que la maîtresse de la maison. Tous se résignèrent à subir le chardonneret du sacré bocage, dit Alexandre de Brébian, autre bon mot. Enfin, le président de la Société d'agriculture apaisa la sédition par une observation magistrale. « Avant la Révolution, dit-il, les plus grands seigneurs recevaient Duclos, Grimm, Crébillon. Tous ces gens qui, comme ce petit poète de Loumeau, étaient sans conséquence, mais ils n'admettaient point les receveurs des tailles, ce qu'est, après tout, Châtelet. » Du Châtelet paya pour Chardon. Chacun lui marqua de la froideur. En se sentant attaqué, le directeur des contributions qui, depuis le moment où elle l'avait appelé Châtelet, s'était juré à lui-même de posséder Madame de Bargeton, entra dans les vues de la maîtresse du logis. Il soutint le jeune poète en se déclarant son ami. Ce grand diplomate, dont s'était si maladroitement privé l'empereur, caressa Lucien. Il se dit son ami. Pour lancer le poète, il donna un dîner où se trouvèrent le préfet, le receveur général, le colonel du régiment en garnison, le directeur de l'école de marine, le président du tribunal, enfin, toutes les sommités administratives. Le pauvre poète fut fêté si grandement que tout autre qu'un jeune homme de 22 ans aurait véhémentement soupçonné de mystification les louanges au moyen desquelles on abusa de lui. Au dessert, Châtelet fit réciter à son rival une ode de Sardanapale mourant, le chef-d'œuvre du moment. En l'entendant, le proviseur du collège, homme flegmatique, battit des mains en disant que Jean-Baptiste Rousseau n'avait pas mieux fait. Le baron Sixte Châtelet pensa que le petit rimeur crèverait tôt ou tard dans la serre chaude des louanges, ou que, dans l'ivresse de sa gloire anticipée, il se permettrait quelques impertinences qui le feraient rentrer dans son obscurité primitive. En attendant le décès de ce génie, il parut immoler ses prétentions aux pieds de Madame de Bargeton. Mais, avec l'habileté des roués, il avait arrêté son plan et suivi, avec une attention stratégique, la marche des deux amants en épiant l'occasion d'exterminer Lucien. Il s'éleva dès lors, dans Angoulême et dans les environs, un bruit sourd qui proclamait l'existence d'un grand homme en Angoumois. Madame de Bargeton était généralement louée pour les soins qu'elle prodiguait à ce jeune aigle. Une fois sa conduite approuvée, elle voulut obtenir une sanction générale. Elle tambourina dans le département une soirée à glace, à gâteau et à thé, grande innovation dans une ville où le thé se vendait encore chez les apothicaires, comme une drogue employée contre les indigestions. La fleur de l'aristocratie fut conviée pour entendre une grande œuvre que devait lire Lucien. Louise avait caché les difficultés vaincues à son ami, mais elle lui toucha quelques mots de la conjuration formée contre lui par le monde, car elle ne voulait pas lui laisser ignorer les dangers de la carrière que doivent parcourir les hommes de génie, et où se rencontrent des obstacles infranchissables au courage médiocre. Elle fit de cette victoire un enseignement. De ses blanches mains, elle lui montra la gloire achetée par de continuels supplices. Elle lui parla du bûcher des martyrs à traverser. Elle lui beurra ses plus belles tartines et les panacha de ses plus pompeuses expressions. Ce fut une contrefaçon des improvisations qui déparent le roman de Corinne. Louise se trouva si grande par son éloquence qu'elle aima davantage le Benjamin qui la lui inspirait. Elle lui conseilla de répudier audacieusement son père en prenant le noble nom de Rubempré, sans se soucier des criailleries soulevées par un échange que d'ailleurs le roi légitimerait. Apparentée à la marquise d'Espard, une demoiselle de Blamont-Chauvry, fort en crédit à la cour, elle se chargeait d'obtenir cette faveur. À ces mots, le roi, la marquise d'Espard, la cour, Lucien vit comme un feu d'artifice, et la nécessité de ce baptême lui fut prouvée. « Ah, cher petit !» lui dit Louise d'une voix tendrement moqueuse. « Plus tôt il se fera, plus vite il sera sanctionné. » Elle souleva, l'une après l'autre, les couches successives de l'état social et fit compter au poète les échelons qu'il franchissait soudain par cette habile détermination. En un instant, elle fit abjurer à Lucien ses idées populacières sur la chimérique égalité de 1793. Elle réveilla chez lui la soif des distinctions que la froide raison de David avait calmée. Elle lui montra la haute société comme le seul théâtre sur lequel il devait se tenir. Le haineux libéral devint monarchique in petto. Lucien mordit à la pomme du luxe aristocratique et de la gloire. Il jura d'apporter aux pieds de sa dame une couronne, fût-elle ensanglantée. Il la conquerrait à tout prix, quibus cumque vis. Pour prouver son courage, il raconta ses souffrances actuelles qu'il avait cachées à Louise. Conseillé par cette indéfinissable pudeur attachée au premier sentiment, et qui défend au jeune homme d'étaler ses grandeurs, tant il aime avoir apprécié son âme dans son incognito. Il peignit les étreintes d'une misère supportée avec orgueil, ses travaux chez David, ses nuits employées à l'étude. Cette jeune ardeur rappela le colonel de 26 ans à Madame de Bargeton, dont le regard s'amollit. En voyant la faiblesse gagner son imposante maîtresse, Lucien prit une main qu'on lui laissa prendre et la baisa avec la furie du poète, du jeune homme, de l'amant. Louise alla jusqu'à permettre au fils de l'apothicaire d'atteindre à son front et d'y imprimer ses lèvres palpitantes. « Enfant, enfant, si l'on nous voyait, je serais bien ridicule, » dit-elle en se réveillant d'une torpeur extatique. Pendant cette soirée, l'esprit de Madame de Bargeton fit de grands ravages dans ce qu'elle nommait les préjugés de Lucien. À l'entendre, les hommes de génie n'avaient ni frère, ni sœur, ni père, ni mère. Les grandes œuvres qu'ils devaient édifier leur imposaient un apparent égoïsme en les obligeant de tout sacrifier à leur grandeur. Si la famille souffrait d'abord des dévorantes exactions perçues par un cerveau gigantesque, plus tard, elle recevrait au centuple le prix des sacrifices de tout genre exigés par les premières luttes d'une royauté contrariée, en partageant les fruits de la victoire. Le génie ne relevait que de lui-même. Il était seul juge de ses moyens, car lui seul connaissait la fin. Il devait donc se mettre au-dessus des lois, appelé qu'il était à les refaire. D'ailleurs, qui s'empare de son siècle peut tout prendre, tout risquer, car tout est à lui. Elle citait les commencements de la vie de Bernard de Palissy, de Louis XI, de Fox, de Napoléon, de Christophe Colomb, de César, de tous les illustres joueurs, d'abord criblés de dettes ou misérables, incompris, tenus pour fous, pour mauvais fils, mauvais père, mauvais frère, mais qui, plus tard, devenaient l'orgueil de la famille, du pays, du monde. Ces raisonnements abondaient dans les vices secrets de Lucien et avançaient la corruption de son cœur. Car, dans l'ardeur de ses désirs, il admettait les moyens a priori. Mais ne pas réussir est un crime de lèse-majesté sociale. Un vaincu n'a-t-il pas alors assassiné toutes les vertus bourgeoises sur lesquelles repose la société qui chasse avec horreur les Marius assis devant leurs ruines? Lucien ne se savait pas entre l'infamie des bagnes et les palmes du génie. Il planait sur le Sinaï des prophètes, sans comprendre qu'au bas s'étend une mer morte, l'horrible sphère de Gomorre. Louise débrida si bien le cœur et l'esprit de son poète, des langes dont les avait enveloppés la vie de province, que Lucien voulut éprouver Madame de Bargeton afin de savoir s'il pouvait, sans éprouver la honte d'un refus, conquérir cette haute proie. La soirée annoncée lui donna l'occasion de tenter cette épreuve. L'ambition se mêlait à son amour. Il aimait et voulait s'élever, double désir bien naturel chez les jeunes gens qui ont un cœur à satisfaire et l'indigence à combattre. En conviant aujourd'hui tous ses enfants à un même festin, la société réveille leurs ambitions dès le matin de la vie. Elle destitue la jeunesse de ses grâces et vicie la plupart de ses sentiments généreux en y mêlant des calculs. La poésie voudrait qu'il en fût autrement, mais le fait vient trop souvent démentir la fiction à laquelle on voudrait croire pour qu'on puisse se permettre de représenter le jeune homme autrement qu'il est au XIXe siècle. Le calcul de Lucien lui parut fait au profit d'un beau sentiment, de son amitié pour David. Lucien écrivit une longue lettre à sa Louise, car il se trouva plus hardi la plume à la main que la parole à la bouche. En 12 feuillets, 3 fois recopiés, il raconta le génie de son père, ses espérances perdues et la misère horrible à laquelle il était en proie. Il peignit sa chère sœur comme un ange, David comme un cuvier futur, qui, avant d'être un grand homme, était un père, un frère, un ami pour lui. Il se croirait indigne d'être aimé de Louise, sa première gloire, s'il ne lui demandait pas de faire pour David ce qu'elle faisait pour lui-même. Il renoncerait à tout, plutôt que de trahir David Séchard. Il voulait que David assista à son succès. Il écrivit une de ces lettres folles où les jeunes gens opposent le pistolet à un refus, où tournent le casuisme de l'enfance, où parle la logique insensée des belles âmes. Délicieux verbiage, brodé de ces déclarations naïves, échappées du cœur à l'insu de l'écrivain, et que les femmes aiment tant. Après avoir remis cette lettre à la femme de chambre, Lucien était venu passer la journée à corriger des épreuves, à diriger quelques travaux, à mettre en ordre les petites affaires de l'imprimerie, sans rien dire à David. Dans les jours où le cœur est encore enfant, les jeunes gens ont de ces sublimes discrétions. D'ailleurs, peut-être Lucien commençait-il à redouter la hache de Phocion. Que savait manier David? Peut-être craignait-il la clarté d'un regard qui allait au fond de l'âme. Après la lecture de Chénier, son secret avait passé de son cœur sur ses lèvres, atteint par un reproche qu'il sentit comme le doigt que pose un médecin sur une plaie.